I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Pereira, journaliste Eurosport, et bienvenue dans l'EFC Stream Team. Et oui, comme vous le voyez, ou plutôt comme vous l'entendez, pas de Maxime Dupuis ni de Martin Mosnier cette semaine. Vous n'aviez pas besoin de ça pour le savoir, mais ces deux-là sont des gens ordinaires à qui il arrive de prendre des vacances parfois, et même souvent, et même tout le temps. Mais rassurez-vous, il existe des gens aussi fidèles que vous, comme Adrien Yo qui va animer cette émission à mes côtés. Comment ça va Adrien ?
Ça va et toi Julien ? Écoute, ça fait plaisir d'animer une stream team à tes côtés. Bah ouais, on voit bien qu'il y en a, ils se la coulent douce quoi. Ils se la coulent douce, ils sont tranquilles, ils sont en vacances. Ils vont nous écouter les doigts de pied en éventail. Pour l'un, l'autre, il sera peut-être...
Le petit cocktail.
Le petit cocktail, voilà. La belle vie,
alors,
quoi.
Il y en aura un qui aura sûrement un cocktail et l'autre, il aura sûrement un hamburger.
Ah oui, un gros hamburger. Le connaissant, il va pas rigoler là-dessus. Bon, on a une émission, nous, à faire parce que voilà, pendant qu'il y en a qui se la coule douce, il y en a qui bossent. Donc, ouais, je te propose de commencer par le sommaire avec une première partie sur la guerre Russie-Ukraine et ses conséquences.
Oui, on va évoquer tout ça, évidemment, parce que c'est le sujet majeur de cette semaine et probablement des prochaines semaines, avec un invité, Lazare Van Paris, qui écrit sur le site Footballski, qui est spécialiste du football de l'Europe de l'Est, qui va nous éclairer sur plusieurs sujets. Avant qu'on revienne sur des sujets un petit peu plus légers, Adrien, avec notamment le Paris Saint-Germain.
Plus léger, je sais pas, mais en tout cas, autour du Paris Saint-Germain, on va s'interroger sur la M&M, Messi, Neymar, Mbappé, et on va avoir cette interrogation. Est-ce qu'il ne faut pas en mettre un sur le banc pour les grandes échéances? On a encore vu face à Nantes l'équipe souvent coupée en deux dans les phases défensives, parce que les trois de devant ont du mal à se replier défensivement. Donc on va s'interroger, voilà, est-ce que Mauricio Pochettino a tout intérêt à conserver ses trois de devant? Est-ce qu'il peut faire autrement d'ailleurs? Ou s'il peut prendre une décision assez radicale? Et on terminera avec une dernière partie, Julien, qui va nous emmener du côté de l'Espagne.
Ouais, du côté de l'Espagne et de Madrid, à l'Atlético, où Antoine Griezmann a retrouvé du temps de jeu cette semaine contre Manchester United après deux mois de galère et de blessures. Il revient au bon moment et il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux pour lui dans les prochaines semaines. Donc, on évoquera tout ça en fin d'émission.
Ce podcast est à retrouver, vous le savez, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Acast, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser des commentaires également. On aime bien lire vos commentaires et ça nous permet également de remonter dans les classements des plateformes. Julien, t'es prêt ?
Je suis prêt, Adrien.
Allez, on y va pour le FC Stream Team, c'est parti. La guerre entre l'Ukraine et la Russie va avoir, il y a déjà des conséquences sur le sport européen. On a vu notamment les joueurs brésiliens du Shakhtar Donetsk appelés à l'aide, coincés dans un hôtel de Kiev, appelés à l'aide leur gouvernement. On sait que le championnat en Ukraine est également suspendu. On va évoquer tous ces sujets-là avec notre invité aujourd'hui, Lazare Van Paris, qui est rédacteur pour le site Footballski, spécialiste du football de l'Europe de l'Est. Salut Lazare.
Bonjour à tous, merci.
Merci de nous rejoindre dans le FC Stream Team. Alors, une première question toute simple, comment cette crise et cette guerre peut impacter le football européen?
Aujourd'hui, on a un football qui est de plus en plus connecté politiquement parlant et qui est de plus en plus présent dans toutes les sphères de la société. Et du coup, des sanctions au niveau des entreprises russes vont avoir un impact direct sur des clubs européens et de la même façon... Les sanctions ou la guerre en elle-même va empêcher la continuité du championnat ou même peut avoir un impact sur les sélections nationales.
Julien ?
Ouais, il y a plusieurs choses qui sont déjà sorties ces derniers jours. On pense notamment au contrat Gazprom avec l'UEFA. On parle d'une somme de 40 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Est-ce qu'il va y avoir une défiance maintenant vis-à-vis de toutes les entreprises, les sponsors russes? Est-ce qu'il va y avoir est-ce qu'on va rechercher plutôt un compromis selon toi? Parce qu'évidemment, on sait que l'UEFA a besoin de cet argent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour les prochains jours?
Aujourd'hui, on a eu déjà Saint-Pétersbourg a perdu la finale de la Ligue des Champions qui devait se tenir dans la ville de Gazprom pour le mois de pour cette année. Donc c'est déjà quelque chose qui était important,
La
mais
finale qui a été
les
relocalisée au
contrats
Stade de
sont
France, hein, oui.
exactement. Et les contrats sont tels que aujourd'hui, les contrats sont pour de nombreuses années et des sommes très importantes. Et il est aujourd'hui trop tôt pour pouvoir affirmer que Gazprom va être remplacé de tout sponsoring. C'est pas forcément dans l'intérêt de personne aujourd'hui. Il y a trop d'argent et la situation est trop confuse pour tout de suite s'aventurer et dire que demain sera un monde totalement différent. Ce qui est sûr, par contre, effectivement, le club de Schalke a déjà annoncé qu'ils allaient changer de politique et ne plus s'afficher avec le sponsor sur leur maillot. C'est une somme de 10 millions d'euros qui est en jeu par an pour un club de Bundesliga 2 qui est dans une situation financière précaire, qui a eu beaucoup d'argent, qui n'a pas forcément eu les résultats liés au budget qu'ils ont eu dans le passé. Et donc aujourd'hui, prendre cette décision de ne plus s'afficher avec leur sponsor Gazprom, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui aura des répercussions, qui montre que l'Allemagne est en train de prendre conscience des enjeux liés à cette crise militaire, mais également énergétique qui a lieu en ce moment. Et donc, on est en train de voir une carte du sponsoring et une carte des financements qui va changer. Mais aujourd'hui, on est encore au tout début de cette situation. De la même façon, Aeroflot est interdit de vol en Angleterre et Aeroflot est un des sponsors principaux de Manchester United.
Oui, donc
Donc là
concrètement,
aussi,
voilà, on
la
a déjà des premiers effets qui se font sentir tout de suite. Schalke va se priver de 10 millions d'euros par an. Aeroflot, tu parlais. Les 40 millions annuels versés par Gazprom à l'UEFA, bah, c'est pareil, ça peut potentiellement derrière avoir un impact. Si l'UEFA venait à suspendre ce partenariat, c'est le financement des compétitions européennes qui potentiellement pourrait être remis en cause d'une manière ou d'une autre, où il faudrait trouver d'autres sponsors pour remplacer. Donc c'est vrai que ce que tu nous expliques là, c'est que voilà, déjà concrètement, la guerre vient d'être déclenchée et il y a des réactions immédiates qui sont prises par les différents acteurs. Nous, il y en a deux qui nous parlent plus encore en France et en Europe. C'est les cas de Chelsea et de Monaco, parce qu'on le sait, ils sont détenus depuis de nombreuses années par des milliardaires russes. Prenons le cas de Chelsea, si tu veux bien, Lazare, pour commencer. Roman Abramovich possède ce club depuis longtemps, je le disais. Comment ça peut se passer concrètement? Est-ce que Chelsea est en danger? Est-ce que Roman Abramovich va voir ses avoirs gelés? Il pourra plus financer le club? Comment ça se passe pour Chelsea concrètement là, dans les semaines qui vont venir?
l'avantage, c'est que ce n'est pas la première crise, entre guillemets, que Abramovich vit avec Chelsea. Il a déjà eu le problème en 2018 avec l'empoisonnement de l'ex-espion Skripal. Et à ce moment-là, il avait perdu son visa pour le Royaume-Uni, n'avait pas été renouvelé. Et donc, il avait dû quitter le territoire britannique à l'époque. Il s'était réfugié en Israël, il avait récupéré un passeport israélien, il n'avait pas pu revenir au Royaume-Uni grâce à ce passeport et il a dû prendre ce qu'on appelle des passeports dorés portugais pour pouvoir revenir quelques années plus tard au Royaume-Uni. C'est comme ça qu'il était de retour. Et donc, il a, entre guillemets, déjà eu une communication et une gestion de crise à l'époque où il n'était pas présent au jour le jour pour gérer ses affaires. Et c'est son assistante personnelle, Madame Marina Granovskaya, qui a pris en charge toute la gestion. Et aujourd'hui, Madame Granovskaya est la pièce maîtresse de Chelsea. C'est elle qui gère tout, de A à Z. C'est elle qui gère les transferts. C'est elle qui négocie les contrats. Et elle est même au board de Chelsea. Donc, si on me pose la question, Chelsea est-il menacé? Pas d'un point de vue organisationnel, d'un point de vue structurel. La gestion est assurée par Madame Granovskaya au jour le jour, et c'est elle qui a les responsabilités, qui a toute la confiance du propriétaire. Le seul problème pourrait intervenir si jamais il y avait des gels d'actifs ou des problèmes de financement du club, mais on n'y est pas encore.
Est-ce qu'on peut quand même imaginer, j'imagine que c'est encore trop tôt pour le dire et pour avoir des certitudes là-dessus, mais est-ce qu'on peut quand même imaginer qu'à moyen ou plus long terme, Abramovich soit obligé de se retirer tout simplement du financement de Chelsea? Qu'il soit obligé de retirer les billes qu'il a au club tout simplement?
Aujourd'hui, la situation est telle qu'on n'a aucune idée, entre guillemets, de ce vers quoi ça va tendre. Ça peut, la situation en Ukraine ou en Russie peut, entre guillemets, arriver à maturation très rapidement. Ou d'un autre côté, ça peut partir en guérilla et avoir une situation militaire très complexe qui va s'installer dans le temps. D'un point de vue financier, j'imagine qu'une grosse partie de ses avoirs sont dans des zones européennes et une autre partie est en dehors de la zone euro. Et donc, aujourd'hui, en tant que businessman, il doit avoir ses actifs du coup dans 10 différentes juridictions et tout ne doit pas être facilement saisissable par les entités, que ce soit européennes ou anglo-saxonnes. Ou anglaise. De là à dire qu'il est soit obligé de vendre, tout est possible, mais aujourd'hui, la situation est quand même beaucoup trop tôt.
Après, c'est
Parce
sûr que. Vas-y, Julien.
il y a quand même, on le rappelle, The Sun qui a fait sa une cette semaine en disant non à Abramovitch, on ne veut pas du pote de Poutine. Est-ce que tu peux nous dire ou nous éclairer sur quelle est la relation entre Poutine et Abramovitch? J'ai l'impression que ces dernières années, Abramovitch a plutôt essayé de se mettre à l'écart vis-à-vis de Poutine. Comment ça se traduit dans les faits? Est-ce que c'est réel ou est-ce qu'en fait il y a une vraie proximité entre les deux?
Il y a une proximité historique déjà, et Abramovich part en Angleterre, un peu comme beaucoup d'oligarques, où si on est bien à la maison, pourquoi partir? Donc il a été plus ou moins invité à partir, et même il a compris que pour lui, c'était plus facile d'aller faire du business à l'étranger que de rester en Russie pour ça. Mais dans le même temps, sa situation privilégiée en Angleterre, où le club de Chelsea en fait lui a donné une véritable position de force pour faire du business et rencontrer des gens, a été un atout non négligeable ces dernières années pour Poutine et son cercle proche. Et donc les relations se sont quand même réchauffées ces dernières années, où même si par exemple il n'est plus actionnaire de Gazprom. Gazprom est quand même un des sponsors du club de Chelsea aujourd'hui. Donc la situation s'est quand même, oui, vraiment améliorée, on peut le dire, entre les deux hommes.
Oui, donc du coup, ça peut potentiellement avoir des vraies répercussions. Abramovich, c'est plus de 12 milliards de patrimoine selon Forbes. On sait qu'il a dépensé sur les 5 dernières années plus de 900 millions d'euros en transfert. Récemment, Boris Johnson a commencé à évoquer l'idée de geler les avoirs des oligarques russes qui sont présents à Moscou, à Londres, pardon. On sait qu'il y a énormément d'oligarques russes qui ont des intérêts financiers dans la capitale britannique. On a quand même du mal à imaginer que tout va se passer comme il faut. Julien a évoqué la une du Sun. Si Chelsea continuait à faire des investissements massifs en transfert, j'imagine que les autorités britanniques se poseraient la question de l'origine des fonds et essaieraient de comprendre et de voir si c'est toujours moralement envisageable de continuer comme ça ou si bah, voilà, il faut prendre des mesures de rétorsion envers ces proches ce proche de Poutine. Si tu veux. On peut évoquer désormais le cas de Monaco, qui est peut-être un peu différent. Nous, on voit deux oligarques, nous, du point de vue français. Mais est-ce que Dimitri Ribolovlev est aussi proche de Poutine que peut l'être un Abramovitch, ou les cas sont différents?
De la même façon, il quitte la Russie en 2010, où il est plus ou moins forcé de vendre sa participation dans Uralkali à des proches du régime de Vladimir Poutine. Donc là aussi, il quitte la Russie alors qu'il n'est pas en odeur de sainteté, qu'on lui recommande vivement de passer un accord s'il veut, entre guillemets, garder la face. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il arrive à Monaco avec énormément d'argent, qu'il souhaite investir sur place pour, entre guillemets, s'acheter une paix et une sécurité. C'est comme ça qu'il arrive à Monaco il y a quasiment 10 ans. Et donc, on est quand même sur des cas, là aussi, c'est loin d'être un proche de Vladimir Poutine. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui a aussi un passeport chypriote. Et on est à Monaco, qui n'est donc pas sous les mêmes contraintes législatives que ce soit le Royaume-Uni ou la France. Donc encore une fois, on est dans une situation assez complexe où dans l'immédiat, il y aurait assez peu de raisons de vouloir s'en prendre tout de suite à cette personne. Et de la même façon, au niveau de l'origine des fonds, c'est un peu compliqué de vouloir dire oui au départ et quasiment 10 ans plus tard en se posant des questions sur l'origine des fonds.
Oui, sauf que
De façon rétroactive.
la situation évolue quand même. Là, on est quand même dans une situation de guerre. Les gouvernements, et je pense au gouvernement de Monaco, pourraient décider de dire, bon, il y a beaucoup de questions d'ordre moral, d'ordre éthique, etc. On va peut-être se pencher davantage sur ce sujet. Voilà, c'est des questions en tout cas qui se posent aujourd'hui. C'est pour ça qu'on t'a fait venir et on apprécie ces réponses. Julien, tu voulais
De toute
revenir sur un
façon.
point?
Ouais, juste une précision, Lazare le disait, c'est deux cas qui sont différents. C'est aussi deux clubs qui sont différents dans leur fonctionnement. On voit bien qu'à Monaco, on n'est plus du tout dans l'ère du début Ribolovlev, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de transferts qui dépassent les 20 millions d'euros aujourd'hui. Monaco est un club dont la santé financière n'est pas impeccable. C'est un club qui a besoin de vendre pour pouvoir être à l'équilibre dans son budget. Donc, on n'est plus du tout sur la même échelle, si vous voulez. Tu l'as dit, Adrien, Chelsea, c'est 900 millions, quasiment 1 milliard d'euros dépensés sur les 5 dernières années. Monaco, globalement, a toujours beaucoup plus vendu qu'il n'a acheté ces dernières années. Donc, même si, dans le pire des cas, entre guillemets, si Ribolovlev doit se retirer de Monaco, ça ne débouchera pas sur un écroulement du club, pour la simple et bonne raison que ce club-là, si aujourd'hui il peut se payer des joueurs qui ont quand même une importance au niveau européen, je pense notamment à Wissam Ben Yedder, c'est aussi parce qu'il y a une fiscalité avantageuse à Monaco et qu'ils peuvent se payer des salaires plus élevés. Donc, globalement, moi, je suis évidemment, comme beaucoup, spectateur pour l'instant de tout ça, mais j'ai quand même du mal à imaginer que si répercussions il doit y avoir, si répercussions importantes il doit y avoir, elles soient les mêmes pour Monaco que pour Chelsea.
D'accord avec ça, Lazare?
Entièrement d'accord, on est sur des cas totalement différents, sur un vecteur d'image totalement différent. Et donc, la situation pour l'instant n'est pas comparable.
Très bien, merci de tes explications sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie et ses répercussions. On le sent bien que. Voilà, on avance à tâtons, mais qu'il y a déjà des premiers effets qui se font ressentir au niveau du football européen. Et on suivra évidemment avec attention, voir comment la situation évolue. Merci Lazare, on va passer tout de suite à notre deuxième partie. On va évoquer le Paris Saint-Germain et sa MNM. Face à Nantes le week-end dernier, Mauricio Pochettino avait décidé d'aligner de nouveau sa MNM Messi, Neymar, Mbappé. Une première depuis le 28 novembre et une victoire face à Saint-Étienne. Mais cette fois-ci, le résultat, on le connaît, une défaite 3 buts à 1. Alors, si offensivement, il y a quand même eu des belles promesses, les trois ont réussi quand même à combiner, on les a vus assez proches les uns des autres, des redoublements de passes, je pense même à la passe décisive de Messi pour Neymar. Défensivement, force est de constater que c'est toujours un peu la même histoire, une équipe qui défendait souvent à 7, rapidement coupée en deux. Moi, j'ai envie de te poser la question, Julien, est-ce que on peut continuer avec ces trois-là ou est-ce qu'il ne faudrait pas en mettre l'un des trois sur le banc? Je pense aux grosses échéances, notamment face au Real Madrid.
Alors, ma réponse est non, pour la simple et mauvaise raison que politiquement, Mauricio Pochettino ne peut tout simplement pas se permettre de mettre l'un de ses trois hommes sur le banc.
Et d'ailleurs, je pense que même si il n'y avait pas de problème politique, si même on posait la question sur le plan uniquement football tactique et technique, je pense qu'ils ne feraient pas. Pourquoi? Parce que si tu les prends un par un, Mbappé, il n'y a pas de débat. Messi, je suis un petit peu comme lui, d'ailleurs, plutôt partisan de dire qu'il y a quand même eu du progrès. On a vu du bon dans le jeu face au Real, même si évidemment il manque ce qu'il doit surtout pas manquer. Et puis Neymar, c'est un petit peu le tout ou rien. On sait que sur des matchs qui peuvent être serrés, comme ce sera probablement le cas au match retour face au Real, il peut apporter justement il peut faire la différence à lui tout seul. On se souvient de l'impact qu'il avait eu au Final Eight, notamment il y a un an et demi maintenant. Donc, si tu les prends un par un, tu peux pas les enlever. Et de toute façon, je pense que ça traverse même pas l'esprit de Pochettino parce que, un, politiquement, il ne peut pas se le permettre. Et que, deux, pour tout l'impact que ça aurait derrière sur le vestiaire, etc., ça serait beaucoup trop compliqué.
Ouais, moi je vais prendre un peu le contre-pied. Je pense que, alors politiquement, ça serait dur. Ce serait vraiment une grosse prise de position et d'affirmation de son autorité à Pochettino. Mais moi, je pense qu'il pourrait le faire parce que déjà, on sait très bien que sa fin de mandat au Paris Saint-Germain, on voit bien que c'est compliqué. Il lui reste un an de contrat, mais on n'imagine pas qu'il reste au-delà de l'été 2022. Et pour moi, sa seule façon de sortir grandi, de sortir par le haut de cette expérience, c'est que le PSG aille loin en Ligue des Champions, voire la gagne. C'est la seule solution, parce que le championnat, il est plié, il n'y a plus de problème là-dessus. La Ligue des Champions, c'est vraiment le juge de paix. Si face au Real Madrid, bah, on a encore une équipe qui est coupée en deux, on a les trois devant qui ne se replient pas suffisamment, et que le PSG perd 2 ou 3-0 ou 2-1 ou 3-1 et qu'ils sont éliminés, bah, on va lui tomber dessus. Je pense que Mauricio Pochettino a tout à gagner à se dire, bah, moi, mon équipe, la meilleure possible, c'est d'en sortir un des trois. C'est peut-être de mettre un Di Maria. On l'a vu au match aller face au Real Madrid. Di Maria, certes, offensivement, c'était pas la folie, mais par contre, défensivement, il était là. Il était là, il se repliait, il était comme un chien. Et on a vu le match que ça a donné. Alors, c'est sûr que ce sera pas simple. Mais moi, je pense que Mauricio Pochettino, il n'en a entre guillemets plus rien à faire de ce qu'on peut penser de lui, de ce que Leonardo pense de lui. Il sait très bien que les relations avec le directeur sportif du PSG sont déjà assez compliquées, assez fraîches, on va le dire. Et pour moi, il a tout à gagner à essayer de faire ça. Je pense qu'il pourrait le faire. C'est pas une situation que j'écarterais complètement.
Moi, je pense qu'il a quand même aussi beaucoup à perdre pour la simple et bonne raison que. En fait, je pense que on juge aussi ces trois-là sur ce qu'on voit en championnat. On oublie un peu trop souvent que le PSG en Ligue des Champions, quand il y a des enjeux comme celui-ci, est capable de se transcender et que ces trois-là sont capables de faire un petit peu plus d'efforts. Ça sera évidemment pas parfait, ce sera évidemment pas le repli défensif dont le PSG a besoin pour voir encore plus loin. Mais il faut surtout pas négliger l'importance du match pour le PSG, l'importance du match pour ces trois joueurs-là aussi. Donc, je pense que Pochettino partira de ce postulat-là parce que, évidemment, c'est le plus naturel, entre guillemets, c'est celui qui lui permet de prendre le moins de risques possible. Et de toute façon, Di Maria, oui, mais je ne suis pas certain que si tu mets un Di Maria à la place d'un Messi ou d'un Neymar, tu auras l'assurance de beaucoup mieux couvrir le terrain, beaucoup mieux te replier. Évidemment que dans l'attitude, il est beaucoup plus convaincant dans l'attitude défensive. Je suis pas certain que tout repose sur l'individualité d'Di Maria sur le plan défensif. Je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus collectif. Et de toute façon, jusqu'à présent, le PSG a toujours été sauvé par ses individualités. C'est aussi ce prisme-là qu'on peut voir. C'est de se dire, ce qui fait la différence à Paris, c'est les individualités. Et les meilleures individualités, bah, c'est ces trois-là.
Ouais, moi je vois pas ça comme ça. Je me dis qu'un Di Maria, il peut vraiment apporter. S'il n'y en a que deux qui ne se replient pas devant, que ce soit Messi ou Mbappé, parce que Mbappé, on le sait, il est intouchable. Mbappé, il restera quoi qu'il arrive devant. Pour jouer les contres à 100 à l'heure, il sera là. Neymar, on l'a vu, hein, quand il est rentré face au Real Madrid, bah, tout de suite, il a dynamité. C'est lui qui fait la dernière passe à Mbappé qui amène au but à la 94e minute. Messi, tout n'a pas été acheté, mais Messi, j'ai l'impression que. Il faut encore qu'il avance et qu'il se passe quelque chose. Moi, j'aurais tendance à dire, mettre Messi sur le banc face au Real Madrid, peut-être pour le piquer dans son orgueil, pour qu'ils comprennent que voilà, ça ne peut pas se passer simplement, je suis sur le terrain, je suis Messi, et tout va se dérouler comme il faut. Il y a quand même une Ligue des Champions à les gagner, il est venu là Messi aussi pour ça. S'il ne fait pas les efforts, et c'est pas son fort, on est d'accord. Mais pour moi, il faudrait le mettre sur le banc. Pour marquer le coup, Pochettino, il l'a déjà fait, hein. On se rappelle, ça avait créé un peu un pataquès, hein. Il l'avait sorti en cours de match contre Lyon.
Et c'est pas la même chose quand même.
C'est peut-être pas la même chose, mais ça montrait
le
que Pochettino, il est capable.
En cours de match et le rentrer, le laisser sur le banc ouais. Au coup d'envoi, c'est quand même c'est très différent.
Je suis d'accord que c'est quelque chose qui a très peu de chances de se passer. Là-dessus, je te rejoins. Politiquement, ça sera très compliqué de le faire. Mais je me dis que c'est une des solutions pour... Et si le PSG fait un super match face au Real Madrid, on ne lui en voudra pas, Pochettino. On lui dira, il a fait ce qu'il fallait, il a mis les joueurs qu'il fallait, il s'est passé de Messi, parce que je pense que potentiellement lui, c'est celui dont il faut se passer, parce que Neymar, on voit quand il rentre, il peut gérer, il peut faire des étincelles. Ou alors, je te propose une deuxième solution, Julien, on commence avec Messi et Mbappé, comme face au Real, et à la 60e, on fait rentrer Neymar, qui dynamite tout ça et qui met un gros coup de fouet. Mais pour moi, c'est la solution. Il y a d'autres exemples. Hein. On en parlait en préparant l'émission. Klopp a déjà mis une de ses stars sur le banc. Il a déjà montré que la triplette devant n'était pas...
Sur le match contre l'Inter, il sort Mané à l'heure de jeu, alors qu'il y a 0-0. Et que, c'est sûr que... je pense que ce n'est pas comparable parce que Klopp a une forme de légitimité à Liverpool qui est totalement différente de celle de Pochettino au PSG. Klopp, ça fait maintenant 7 ans qu'il est à Liverpool. Il a démontré que c'était lui l'homme de base du projet et l'homme de base de tous les succès de Liverpool. Et justement, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, jusqu'à présent, tous les succès du PSG jusqu'à présent, ça repose plutôt sur les individualités. C'est eux qui ont la main, et c'est certainement pas Pochettino. Donc, je pense que c'est difficilement comparable. Mais évidemment que dans un monde idéal, ce serait à l'entraîneur de...
À toi, tu me rejoins.
D'avoir toute la liberté sur ses décisions. Ce n'est évidemment pas le cas au PSG, parce que si sur la feuille de match, le président du PSG est même au-dessus au Qatar, on voit que Messi est sur le banc, vous pouvez être certain que Pochettino aura rapidement un petit coup de fil pour lui dire qu'est-ce qui s'est passé. Quoi. Donc... Pour moi, c'est à la fois inenvisageable politiquement et je ne suis même pas sûr que ce soit réellement le game changer tactiquement, tout simplement.
On verra ça, on verra les choix de Pochettino face au Real Madrid. Est-ce que le lendemain, il y aura des papiers sur l'équipe était coupée en deux ou est-ce qu'il y aura des papiers sur le côté ça y est, ils se sont enfin mis à défendre. On suivra ça, on espère que la deuxième option sera privilégiée pour le Paris Saint-Germain. On va passer, Julien, à la troisième et dernière partie de notre émission. On va se pencher sur Griezmann.
Antoine Griezmann a rejoué. Il a disputé le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à Manchester United. Il est rentré en fin de match. Il a eu le temps de toucher la barre transversale. C'est la fin pour lui, Adrien, de 73 jours de galère.
Ouais, 73 jours de galère qui ont commencé le 12 décembre face au Real Madrid dans un match capital. Griezmann qui se blesse, lésion musculaire à la cuisse droite. Donc déjà une blessure qui a mis du temps à se résorber puisque Antoine Griezmann n'est revenu à la compétition que le 6 janvier. C'était face au Rayo Majadahonda. Et là, pareil, il est rentré en cours de match. 10 minutes après, il se blesse de nouveau à cette cuisse droite. La cicatrisation ne s'était pas complètement terminée. Et puis là, voilà, tu le disais, après 73 jours du coup de galère, Antoine Griezmann qui rejoue pareil, qui rentre en cours de match face à Manchester United, c'est un vrai soulagement et ça arrive vraiment au bon moment pour le Français.
Oui, ça arrive au bon moment parce qu'il y a des échéances qui sont très importantes à l'Atlético d'abord. Alors, il y a le match samedi face à Celta Vigo. On rappelle que l'Atlético lutte encore pour essayer de se faire une place parmi les quatre premiers de Liga, pour essayer d'accrocher un petit billet pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc, il y a ce match-là face à Celta Vigo. Il y a surtout un gros match face au Betis Séville qui est un concurrent direct la semaine prochaine. Et puis, évidemment, il y aura le match retour en Ligue des Champions face à Manchester United. L'Atlético qui a d'énormes difficultés dans le jeu ces dernières semaines. On en a pas mal parlé sur Eurosport.fr. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs un article d'Elias Baïf qui en parle sur notre site. Donc vraiment, Griezmann, c'est le joueur qui peut tout changer pour l'Atlético et c'est surtout un mois qui peut être très très important pour lui parce qu'il y a beaucoup d'enjeux à la fois sur le plan physique, sur le plan technique et aussi pour l'équipe de France, Adrien.
Ouais, sur l'équipe de France. Avant l'équipe de France, il y a surtout déjà au sein de son équipe, parce qu'on a vu entre-temps que Joao Félix avait quand même commencé à prendre bien ses marques et le pouvoir, surtout sur le front de l'attaque des Colchoneros. On l'a vu marquer hein, contre Manchester United. D'ailleurs, c'est
Et
marrant
il
parce que.
sort d'ailleurs sous l'ovation.
Ouais, il sort sous l'innovation. Donc on sent que voilà, il a enfin réussi à conquérir ce public. Mais Griezmann, tu le disais, il a touché la barre. Donc c'est une option de plus qui revient pour Diego Simeone. Je pense que comme tu le dis, il en aura bien besoin. Mais vers ce match, hein, parce qu'il va falloir qu'il retrouve sa place petit à petit. On sait que Griezmann, c'est pas le genre à lâcher et à se contenter d'être sur le banc. Mais il va y avoir voilà, ces échéances. L'équipe de France, t'en parlais, c'est pareil. L'équipe de France, il va falloir qu'il retrouve aussi un petit peu ses marques. On a vu sur les derniers rassemblements bah, que ce soit Karim Benzema ou Kylian Mbappé, les deux combinés de plus en plus ensemble, on sentait un relatif déclin d'Antoine Griezmann. Relatif, hein, je dis bien, il a toujours sa
Une
place,
mise en
mais
retrait, on va dire.
voilà, plutôt une mise en retrait. Mais là, c'est pareil, il y a ces deux échéances à la fin du mois de mars qui arrivent, le 25 mars contre la Côte d'Ivoire, si je ne dis pas de bêtises, et le 29 contre l'Afrique du Sud, deux matchs amicaux qui vont être clés pour lui pour essayer voilà, de retrouver son influence. Il aurait eu ce mois de mars pour se remettre en jambes. Voilà, comme tu le dis, Julien, ça va être des moments clés pour lui. Il faudra pas les louper.
Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un vrai parallèle à faire entre justement l'Atlético et l'équipe de France. Pourquoi? Parce que Griezmann va devoir démontrer qu'il est toujours l'homme de base de l'Atlético, ce qu'il était avant, et démontrer qu'il peut encore avoir une énorme influence sur son équipe. Ça, c'est ce qu'on attend de nouveau à l'Atlético, et c'est ce qu'on attendra encore sur les matchs amicaux de l'équipe de France, parce que tu l'as dit, c'était un petit peu moins évident ces derniers mois. L'autre point commun, c'est aussi l'enjeu technique. Simeone, il y a un vrai enjeu pour lui, c'est de savoir si Griezmann est capable de nouer une vraie relation technique avec João Félix, parce qu'évidemment, João Félix est l'homme le plus cher de l'histoire de l'Atlético. Griezmann, c'est le symbole de cette équipe-là. Et donc vraiment, ce qu'on attend depuis des mois et qu'on n'a toujours pas vu, c'est une vraie relation et surtout ces deux joueurs-là évoluer à leur meilleur niveau ensemble. Et ça, c'est aussi transposable à l'équipe de France parce que tu l'as dit, c'était un petit peu moins évident avec Karim Benzema et avec Kylian Mbappé. On avait senti qu'il y avait une vraie osmose entre ces deux attaquants-là en équipe de France et que c'était un petit peu au détriment de Griezmann. Donc vraiment, ce mois-là qui arrive, ce mois-là qui se profile pour Griezmann, c'est important à la fois pour lui et surtout pour la suite de la saison de l'Atlético et de l'équipe de France en se projetant sur la Coupe du Monde en novembre prochain plutôt.
Ouais, ça va être un vrai cap. Hein. Et effectivement, c'est aussi pour lui, je pense, même psychologiquement, il va y avoir un vrai cap à franchir. Parce que on l'a vu hein, contre le Rayo Majadahonda quand il a rechuté, on l'a vu sortir en pleurs. Griezmann, ce n'est pas un joueur qui se blesse souvent. Il y a quelques jours par-ci, quelques jours par-là, mais c'est plutôt un joueur qui est très très
Quasiment
fiable
jamais même.
et qui se blesse.
Quasiment jamais
Ouais,
même.
c'est très 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 rare. Là, il a 30 ans. Voilà, on peut aussi dire que c'est une date charnière. C'est une année. Voilà, il va passer voilà, il passe dans le cap des trentenaires. Donc, foncièrement, tu vas plus vers la fin que tu n'es proche du début. Comment il va gérer ça? Est-ce qu'émotionnellement, il va réussir à reprendre le dessus? Est-ce qu'il va pas jouer avec un frein en se disant, j'espère que je vais pas me reblesser sur cette cuisse droite? Donc, il y a plein d'interrogations qui font effectivement que, voilà, comme on le dit, ce mois est charnière. Moi, j'ai pas trop de doutes. Hein. Si on doit se mouiller un peu, voilà, Grisou, c'est l'assurance tout risque. On sait qu'il a vécu des moments compliqués, un peu moins en équipe de France, mais surtout au FC Barcelone. Il a su se relever, il sait revenir. Là, il va falloir renclencher quelque chose supplémentaire. Et je suis persuadé que on verra du très grand Griezmann. De toute façon, que ce soit l'équipe de France ou l'Atlético. Les deux en ont besoin parce que si l'Atlético veut raccrocher le bon wagon et voilà remonter sur les places qui comptent, bah, il va falloir que Griezmann soit là et en équipe de France c'est pareil. Alors, même si c'est que des matchs amicaux, on a besoin de le voir monter en puissance Griezmann dans l'optique de la Coupe du Monde.
Absolument, je ne suis pas inquiet non plus sur le jeu. Moi, je pense qu'à l'Atlético Simeone, a une idée de la formule qu'il veut mettre en place, c'est-à-dire garder ses deux attaquants avec Félix et un autre, voire un permuté entre Suarez, Correa notamment, et garder Griezmann qui ferait le lien, et ce qu'il faisait très bien en équipe de France il y a très peu de temps encore, entre justement ce repli défensif qui est évidemment beaucoup plus important à l'Atlético, et cette attaque où on compte plutôt sur les individualités, sur le talent d'un Suarez ou d'un Félix ou même d'un Correa. Donc sur ça, je ne suis pas inquiet et je pense même qu'il revient au bon moment parce que là, on est fin février, on va arriver sur un mois, on l'a dit, charnière, et donc il y aura un gros mois, grosso modo, pour être prêt pour l'équipe de France. Donc je pense que le timing est plutôt favorable pour Griezmann.
Ouais, c'est les matchs qui comptent, qui arrivent. La fin d'année sera chargée avec son équipe et avec l'équipe de France. Merci Julien. Je crois qu'on a fait le tour pour cette Stream Team.
Merci à toi.
Merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'on a, en tout cas, on a essayé hein, d'être à la hauteur de nos glorieux, j'allais dire de nos glorieux ancêtres. Ils
C'est un peu ça.
apprécieront.
Il y en a un des deux qui est un ancêtre, mais on ne dira pas lequel.
À vous de choisir. Merci en tout cas d'avoir suivi cette Stream Team. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Acast, Spotify, Apple Podcast. N'hésitez pas à nous noter et à nous laisser des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir. Ça nous aide aussi à remonter dans les classements des plateformes. Et ben nous, Julien, on se dit à très vite et on laisse la place la semaine prochaine à Martin et Maxime. Salut!
Salut Adrien, salut à tous.